Chapitre 33. Myriam contempla un par un ses souvenirs, les objets qu'elle avait rassemblés chaque fois qu'elle avait frôlé une autre vie. La vie d'un autre ou une autre vie qu'elle aurait pu vivre. Avec une certaine tristesse, elle constata que sa collection s'était réduite. La clé ramassée sur la péniche avait disparu, ainsi qu'une des boucles d'oreilles de Lorraine, ce qui lui fit beaucoup de peine. Les babioles qu'elle choisissait de conserver représentaient des moments importants pour elle, et quand elle repensait à ces événements, ses quelques instants seuls avec Daniel sur le bateau, sa fuite de la ferme abandonnée, elle aimait avoir entre les mains des choses à y associer, afin de se rappeler avec précision ce qui s'était passé et ce qu'elle avait ressenti. À présent, elle tenait entre ses doigts la petite croix en argent que son père lui avait offerte pour sa confirmation, et ferma fort les paupières pour s'imaginer à 14 ans, avant le cauchemar de la ferme, quand elle était encore une jeune fille innocente. Myriam avait bien conscience que cette habitude de collectionner des souvenirs pour la ramener à des épisodes cruciaux de sa vie était un trait qu'elle partageait avec les psychopathes et les tueurs en série, et cela la contrariait, même si elle estimait qu'au fond, chacun avait sa part d'ombre, et que ces objets l'aidaient à rester fidèle à elle-même, au monstre qu'elle avait fait naître. Parfois, quand elle broyait du noir, elle éprouvait soudain un besoin presque irrésistible de se confesser. Mais si elle avait un confesseur, par où commencerait-elle? Par sa plus récente transgression ou par la toute première? Non. Il faudrait que ce soit la première, celle qui l'avait définie, celle qui l'avait mise sur sa voie. Il faudrait donc commencer par le soir où elle s'était échappée de la ferme, quand elle s'était tenue devant la vitre cassée pour prier et prier encore. Quand elle était sortie par la fenêtre, quand elle avait couru sur le chemin de terre, quand elle avait entendu le tonnerre qui n'en était pas, le bruit de la voiture qui arrivait derrière elle depuis la ferme. Quand elle avait compris qu'il était à sa poursuite et qu'elle s'était remise à courir, qu'elle avait escaladé la clôture et s'était jetée dans le fossé avant de ramper à plat ventre jusqu'à être en partie dissimulée sous un arbre. Là, elle était restée allongée, à écouter le grincement de la transmission lorsque le véhicule avait ralenti, à regarder le faisceau des phares passer sur la branche juste au-dessus d'elle. Puis la voiture s'était éloignée. Après cela, elle était restée dans le fossé, mais elle n'aurait pas su dire combien de temps. Elle ne le saurait jamais. Myriam se souvenait de tonnes de détails sur cette journée et la nuit qui avait suivi, l'odeur de la bâtisse, le bleu pâle du ciel le soir, la chanson à la radio pendant le trajet, et le son affreux qu'avait émis Lorraine après qu'il l'avait frappée. Pourtant, rien à faire. Myriam était incapable de savoir combien de temps elle était restée dans ce fossé, pétrifiée, l'esprit agité par cette simple phrase « Ce n'est pas ma faute si c'est toi qui l'as choisi ». Elle ne se souvenait pas non plus combien de temps elle avait attendu, enfermée dans la pièce de la ferme, paralysée de terreur devant la vitre cassée. Elle ne savait pas combien de temps elle avait mis avant de décider que le mieux à faire n'était pas d'essayer de se défendre, mais de s'enfuir pour alerter les secours. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée plantée là, à prier. Prier pour qu'ils ne redescendent pas les marches. Prier pour qu'ils ne viennent pas la chercher. Prier pour qu'ils prennent tout son temps avec Lorraine. Son esprit était passé à autre chose. Et ça n'avait été que lorsqu'elle s'était assise à la coiffeuse de Lorraine dans sa chambre, quand elle avait empoché les boucles d'oreilles en songeant qu'elle n'était pas quelqu'un de bien, que ses odieuses pensées lui étaient revenues, ainsi que le temps qu'elle avait gaspillé à les formuler. Myriam avait affronté une épreuve morale et elle avait échoué. Ce jour-là, elle avait découvert qu'elle n'était pas quelqu'un de bien, que la bonté, la véritable bonté, lui faisait défaut. Myriam n'était pas quelqu'un de bien, et cela n'avait pas changé avec le temps. Au fond de la boîte en bois, sous la lettre de l'avocat, était posée la plaque du collier du chien. Myriam n'aimait pas repenser à ce qui s'était passé avec le chien. C'était une perte de sang-froid à un moment douloureux de sa vie, et elle n'en était pas fière. Elle avait gardé la plaque pour se rappeler que transférer sa colère sur un autre être ne fonctionnait pas. Ça ne servait à rien. Elle repensait souvent à Jeremy, à combien elle aurait aimé lui plonger un couteau dans la gorge. Parfois, elle pensait aussi à Myerson, à lui éclater le crâne avec un marteau, le pousser dans le canal et le regarder disparaître dans l'eau boueuse. Elle y pensait, mais elle n'avait pas le courage d'agir. Jusqu'au jour où cela s'était fait tout seul. Un client désagréable à la librairie, une collision évitée de peu avec un cycliste qui l'avait traité de grosse connasse, et alors qu'elle arrivait chez elle, le souffle court et la vision trouble, au bord de la crise de panique, elle avait trouvé le chien sur son pont arrière, en train de fourrager dans les sacs poubelles qu'elle avait sortis ce matin-là et oublié de jeter à la benne. Presque sans réfléchir, elle avait attrapé l'animal, l'avait emmené dans la cabine pour le poser dans l'évier et, avec un couteau bien aiguisé, elle lui avait tranché la gorge. Le chien n'avait pas souffert. C'était un geste propre. Pas au sens premier du terme, bien sûr. Cela avait été, au contraire, très salissant. Du sang partout sur ses mains, ses habits et sur le sol, beaucoup plus qu'on ne pourrait se l'imaginer. Il lui avait fallu une éternité pour tout nettoyer. Parfois, elle avait encore l'impression de sentir l'odeur. Plus tard ce soir-là, elle avait mis le cadavre dans un sac et avait remonté le chemin de halage pour vider son contenu dans l'eau devant chez Théo. Elle pensait qu'on retrouverait vite le petit corps, mais il avait dû dériver dans un tunnel ou se prendre dans l'hélice d'une péniche, et Théo n'avait jamais eu l'occasion de se demander qui avait bien pu faire une chose pareille. D'un certain côté, Myriam trouvait ça plus satisfaisant, de le voir régulièrement arpenter le canal et les rues alentour en appelant l'animal ou accrocher ses pitoyables affichettes. Myriam glissa la plaque du chien dans sa poche et quitta sa péniche pour se diriger vers l'ouest, vers la maison de Meyerson. Si elle devait confesser quelque chose, ce serait ça. Cet indigne incident avec le chien. Et si elle devait se confesser à quelqu'un, autant que ce soit à Meyerson. Bien sûr, il risquait de la dénoncer à la police, mais son petit doigt lui soufflait qu'il n'en ferait rien. Il préférerait ne pas raconter comment toute cette histoire avait commencé. Il ne voudrait pas rentrer dans les détails. Cela heurterait sa fierté. Elle s'était convaincue de tout cela, elle s'était rassurée. À présent, elle était certaine que tout avouer au sujet du chien était une bonne idée. Elle ferait d'une pierre deux coups. Elle allait punir Meyerson tout en apaisant sa conscience. Alors, les poings bien serrés le long du corps et le visage déterminé, elle gravit les marches du chemin de halage et s'engagea sur Noel Road, où elle s'arrêta brusquement. Meyerson était là, sur son perron, jetant des coups d'œil furtifs de tous côtés, visiblement très nerveux. Il croisa son regard et leva les sourcils de stupeur, puis, flanqué de deux policiers, il descendit l'allée et rejoignit une voiture garée devant chez lui. La voiture s'en alla. Le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, Myriam en croyait à peine ses yeux. Est-ce qu'elle avait gagné? Justice avait-elle enfin été rendue? Elle resta plantée là un moment, si estomaquée par la scène à laquelle elle venait d'assister, qu'elle faillit oublier de s'en réjouir. Enfin, sa perplexité s'estompa pour laisser place à la joie. Un sourire s'étala sur son visage. Elle porta les mains à ses lèvres et elle se mit à rire, rire et encore rire, un son presque étranger à ses oreilles. Quand elle se calma, elle remarqua qu'on la regardait depuis l'autre côté du trottoir, un peu plus loin dans la rue. Un homme plus âgé dans un fauteuil roulant, avec une crinière de cheveux blancs. Il descendit sur la chaussée et regarda à droite et à gauche comme s'il s'apprêtait à traverser. Alors que Myriam pensait qu'il allait venir lui parler, un énorme taxi se gara devant l'homme. Le chauffeur en sortit et aida l'homme à s'installer à l'arrière, puis il redémarra et effectua un large demi-tour sur la route. Lorsque le véhicule passa devant elle, Myriam croisa le regard de l'homme aux cheveux blancs assis sur la banquette, et tous les petits cheveux de sa nuque se redressèrent.